Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Il est évident qu'à 18 ans, on n'a pas le même trajet, le même parcours que j'ai maintenant pour lire ces lettres à un jeune poète.
Ça m'y ferait.
Mais peut-être que ce que j'ai compris à 18 ans, c'est cette idée de prise de risque. C'est-à-dire se faire confiance, ça veut dire prendre des risques. Ça veut dire oser parler en son nom.
Ça peut pas faire de mal.
Ne pas répéter la petite chanson que tout le monde chante, le petit refrain qui rassemble le plus grand nombre de gens possible. C'est de se faire confiance. Et il n'est pas évident qu'on ait un discours original. Il n'est pas évident que ce qu'on pense soit intéressant. Mais creuser cette pensée, c'est-à-dire arriver à un noyau dur de sa propre pensée.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Vous me demandez si vos vers sont bons, et c'est moi que vous interrogez. Vous avez demandé leur avis à d'autres gens. Vous avez envoyé ces vers à des revues. Puisque vous m'avez autorisé à vous donner quelques conseils, je vous prierai de cesser tout cela. Votre regard est tourné vers l'extérieur, et c'est d'abord cela que vous ne devriez plus faire. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'existe qu'un seul chemin, plonger en vous-même. Recherchez la raison qui vous enjoint d'écrire. Répondez franchement à la question : seriez-vous condamné à mourir au cas où il vous serait refusé d'écrire ? Creusez en vous-même en quête d'une réponse profonde. Et si elle devait être positive, construisez alors votre existence en fonction de cette nécessité. Cherchez à dire, comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous éprouvez. N'écrivez pas d'histoires d'amour, elles sont ce qu'il y a de plus difficile. Décrivez vos tristesses et vos désirs, les pensées qui vous traversent l'esprit et la croyance à une beauté, quelle qu'elle soit. Décrivez tout cela en obéissant à une honnêteté profonde, humble et silencieuse. Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Pour celui qui crée, il n'y a pas de pauvreté, ni de lieu indigent, indifférent. Et quand bien même vous seriez dans une prison dont les murs ne laisseraient rien percevoir des bruits du monde, n'auriez-vous pas toujours à votre disposition votre enfance, sa richesse royale et précieuse, ce trésor de souvenirs ? Portez là votre attention. Votre personnalité en sera confortée. Et lorsque de ce retour à son intériorité, lorsque de cette immersion dans son propre monde surgissent des vers, vous ne songerez pas à interroger quelqu'un pour savoir si ce sont de bons vers. Une œuvre d'art est bonne qui surgit de la nécessité. Voilà pourquoi, cher monsieur, je ne saurais vous donner d'autre conseil que celui-ci. Allez en soi, examinez les profondeurs d'où surgit votre vie. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question « La création est-elle une nécessité pour vous ?» Cette lettre, datée du 17 février 1903, ouvre l'une des plus belles correspondances littéraires entre le grand écrivain autrichien Rainer Maria Rilke et un jeune poète débutant, Franz Kapus, dont l'histoire n'a retenu que le nom. En 1903, Rilke a 28 ans. Il n'a pas encore écrit son chef-d'œuvre, Les élégies de Duino, qui seront publiées en 1922, mais il est déjà un écrivain accompli, l'auteur reconnu de plusieurs recueils de poèmes. À 20 ans, Franz Kapus est élève dans un lycée militaire analogue à celui qu'a fréquenté Rilke quelques années auparavant. Comme son prédécesseur, le jeune homme s'interroge sur son avenir. Faut-il faire carrière dans l'armée ou se risquer sur les chemins de la poésie ? Inapte à la vie militaire, on sait que le jeune Rilke fait le choix de l'écriture. Mais que sait-on de Franz Kapus ? S'il n'est pas devenu écrivain, c'est lui qui, en 1929, 3 ans après la mort de Rilke, fait publier ses lettres à un jeune poète, hommage sincère et pudique, où le destinataire s'efface devant le talent de son idole. Parcourons ce soir ces lettres devenues célèbres, publiées il y a tout juste 90 ans. Reprenons la lettre du 17 février 1903, là où nous l'avions laissée. Dès sa première missive, Rilke pressent-il que le jeune Capus ne sera pas poète, car dans le même courrier, il lui renvoie ses vers, ne jugeant pas utile de les conserver. Mais s'il est une vertu poétique que son admirateur partage, c'est celle de l'exigence vis-à-vis de soi-même. Tel est le message que lui transmet Rilke avec sincérité et lucidité. Poète ou non, il importe de trouver sa voie. Acceptez cette réponse comme elle s'exprimera, sans chercher à démêler davantage. Peut-être apparaîtra-t-il que vous avez vocation à être artiste. Assumez alors ce destin et supportez-en la charge et la grandeur, sans vous demander chaque fois quel bénéfice pourrait vous échoir de l'extérieur. Car celui qui crée doit être son propre univers et trouver tout ce qu'il cherche en lui et dans la nature à laquelle il est lié. Mais il est également possible que vous deviez renoncer, après cette descente en vous-même et dans votre solitude, à devenir poète. Il suffit, comme je l'ai dit, de sentir qu'on peut vivre sans écrire pour être fondé à ne pas écrire du tout. Mais là encore, ce retour sur soi auquel je vous convie n'aura pas été accompli en vain. Votre existence, de toute façon, saura, à partir de là, trouver une voie propre et qu'elle puisse être bonne, riche et ample, voilà ce que je vous souhaite plus que tout. Mais le poète n'a pas encore tout dit et délivre à son jeune admirateur de précieux conseils de lecture. Ce que ses lettres ne disent pas, c'est que Rilke connaît alors une existence mouvementée. Il a été l'amant de l'intellectuel Louis Andrea Salomé, puis s'est marié en 1901 avec l'artiste Clara Westhoff, disciple de Rodin. Leurs relations sont tendues et le poète mène une vie d'errance dans les grandes villes européennes. Alors que sa première lettre provient de Paris, à l'époque où il rédige une biographie de Rodin, la seconde et la troisième sont envoyées d'Italie, où l'écrivain, à la santé fragile, passe quelques jours en convalescence. Il s'adonne alors à ses lectures favorites et fait avec exaltation l'éloge de la lenteur. Viareggio Pise, Italie, le 23 avril 1903. Le chef-d'œuvre Niels Lien, du grand poète danois Jacobsen, va maintenant s'ouvrir à vous. Un livre de splendeur et de profondeur. Plus on le lit et plus il semble qu'il contienne la totalité de la vie, du plus ténu de ses effluves jusqu'au goût fort et plein de ses fruits les plus lourds. Il n'est rien là qui n'ait été compris, saisi, vécu et reconnu dans l'écho tremblant du souvenir. Aucune expérience ne fut trop infime et le moindre des événements s'y déploie tel un destin, lequel est lui-même comme un large et merveilleux tissu dont chaque fil a été guidé par une main infiniment douce. Vous allez éprouver le grand bonheur de lire ce livre pour la première fois et vous parcourrez ces innombrables surprises comme en un rêve inédit. Mais je puis vous assurer que même par la suite, c'est toujours avec un même étonnement qu'on parcourt ces livres et qu'ils ne perdent rien de leur pouvoir merveilleux, ni ne cèdent rien de l'enchantement dont ils comblent le lecteur dès la première fois. À leur contact, on éprouve toujours plus de plaisir, toujours plus de reconnaissance. Notre regard, en quelque manière, s'affine et se simplifie. Notre foi dans l'existence s'approfondit, et dans la vie. Nous sommes plus sereins et plus grands. La solitude qui enveloppe les œuvres d'art est infinie, et il n'est rien qui permette de moins les atteindre que la critique. Seul l'amour peut les appréhender, les saisir et faire preuve de justesse à leur endroit. À chaque fois, dans toute discussion de ce genre, à l'égard de toute recension ou de toute introduction de cet ordre, donnez-vous raison à vous et à votre sentiment. Et si toutefois vous devez avoir tort, c'est la croissance naturelle de votre vie intérieure qui, lentement et avec le temps, vous conduira vers d'autres conceptions. Car tout est d'abord mené à terme, puis mis au monde. Laissez s'épanouir toute impression et tout germe d'un sentiment au plus profond de soi, dans l'obscurité, dans l'ineffable, dans l'inconscient, dans cette région où notre propre entendement n'accède pas. Attendre, en toute humilité et patience, l'heure où l'on accouchera d'une clarté neuve. C'est cela seulement qui est vivre en artiste. Le temps n'est plus alors une mesure appropriée. Une année n'est pas un critère et 10 ans ne sont rien. Être artiste veut dire ne pas calculer, ne pas compter. mûrir tel un arbre qui ne presse pas sa sève et qui, confiant, se dresse dans les tempêtes printanières sans craindre que l'été puisse ne pas venir. Or, il viendra pourtant, mais il ne vient que pour ceux qui sont patients, qui vivent comme s'ils avaient l'éternité devant eux, si sereinement tranquille et vaste. C'est ce que j'apprends tous les jours. Je l'apprends à travers des souffrances auxquelles je suis reconnaissant. Tout est en l'occurrence affaire de patience. Vous me parlez de Richard Demel, l'écrivain qui a inspiré le compositeur Schoenberg. Ses livres, et soit dit en passant l'homme aussi, que je connais vaguement, me font cet effet que lorsque j'y ai trouvé une belle page, j'ai toujours peur de la suivante, qui peut tout détruire et pervertir ce qu'on a aimé. Vous l'avez fort bien défini par cette formule « écrire et vivre en rut ». Et c'est un fait que l'expérience artistique est si incroyablement proche de l'expérience sexuelle, de la douleur et du plaisir qu'elle donne, que les deux phénomènes ne sont en fait que des formes différentes d'un seul et même désir, d'une même et unique joie. Et si, au lieu de rut, il était permis de parler de sexe, en un sens large, pur et grand, l'art de Richard Demel serait vraiment considérable et tout à fait décisif. Sa force poétique est grande, forte comme un instinct primitif. Elle recèle ses propres rythmes effrénés et jaillit de lui comme un torrent d'une montagne.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
La mer se pavane vers les îles d'or. Le levant s'enflamme, la londe les mords et les îles d'or. Sur la ville plane un songe art déco. Le jardin est calme, Buñuel et Cocteau, Dali, Picasso. Hier des années 30, Hispano Suisin. Hier des intrigantes en Balenciaga, peintre famélique, Aristo déchu, colonie d'artistes sous le soleil cru. La mélancolie te chope au détour. Les gymnopédies, les rêves d'amour. Un avion s'envole sur cet âge d'or, sur les années folles et sur l'eau qui dort. L'eau ne dort jamais. Je connais des villes, des mers et des ports. Je connais les îles de San Salvador, de San Salvador. Hier, des années 30, des jardins anglais, allongée, dolente, celle qui t'aimait. Les surréalistes, illusions perdues, la peau des artistes sous le soleil nu, la mélancolie te chope au retour, les gymnopédies, les rêves d'amour.
Trois mois plus tard, la relation épistolaire s'intensifie. Dans sa quatrième lettre, datée du 16 juillet 1903, Rilke tient le rôle de mentor auprès de son disciple. Au-delà de la littérature, le poète aborde de nouveaux sujets, d'ordre intime et existentiel. Cela même, on le devine, qui accapare les pensées du jeune Franz Capus. Voici un extrait de cette lettre envoyée de la région de Brême, dans le nord de l'Allemagne, où Rilke s'est installé avec sa femme et leur petite fille. C'est à la fois en père et en confident qu'il adresse à son protégé ses réflexions sur la vie, sur la sexualité, sur l'égalité homme-femme qu'il appelle de ses vœux et sur la nécessité de s'affranchir de ses parents. J'ai quitté Paris il y a 10 jours environ, vraiment souffrant et fatigué, et je me suis rendu dans cette grande plaine du Nord dont la vastitude, le calme et le ciel sont censés me faire recouvrer la santé. Ici, je ressens votre souci de l'existence plus encore qu'à Paris, où tout résonne autrement et perd ses contours sonores en raison de l'énorme vacarme qui fait trembler les choses. Mais entouré que je suis d'une vaste contrée, parcourue par les vents venus de la mer, je sens qu'aucun homme ne saura jamais répondre aux questions et aux sentiments qui ont leur vie propre dans votre intimité. Car même les meilleurs se perdent dans les mots lorsqu'ils ont à faire entendre ce qui est le plus ténu et qui est presque indicible. Vous êtes si jeune, en quelque sorte avant tout début. Et je voudrais, aussi bien que je le puis, vous prier, cher monsieur, d'être patient à l'égard de tout ce qui, dans votre cœur, est encore irrésolu. Et surtout de tenter d'aimer les questions elles-mêmes, comme des livres écrits dans une langue fort étrangère. Ne cherchez pas pour l'instant de réponses, qui ne sauraient vous être données, car vous ne seriez pas en mesure de les vivre. Or, il s'agit précisément de tout vivre. Vivez maintenant les questions. Éduquez-vous à cela. Acceptez ce qui arrivera en toute confiance et ce qui provient de votre seule volonté, d'une quelconque nécessité de votre intériorité, accueillez-le et ne haïssez rien. Ce qui est sexuel est difficile, en effet, mais ce qui nous a été enjoint est grave. Si seulement vous prenez conscience de cela et si vous parvenez à partir de vous-même, de vos dispositions, à votre manière, en puisant dans votre propre expérience, dans votre enfance et dans vos forces, à nouer un rapport tout à fait personnel que n'influencent ni les conventions ni les mœurs à la sexualité, vous n'aurez plus à craindre désormais de vous perdre ni d'être indigne de ce qu'il y a de meilleur en vous. Le plaisir physique est une expérience sensible qui n'est en rien différente de l'intuition pure ou du sentiment pur dont un beau fruit comble la langue. C'est une grande expérience, infinie, qui nous est accordée. Un savoir du monde, la plénitude et la gloire de tout savoir. Et ce qui est mal, ce n'est pas que nous ressentions ce plaisir. Ce qui est mal, c'est que presque tout le monde mésuse de cette expérience et la dilapide. En fait un excitant pour faire pièce au moment de lassitude qu'ils vivent, en fait une distraction au lieu qu'elle rassemble notre existence en vue de ses acmés. Oh, puisse l'homme ressentir avec plus d'humilité ce secret dont la terre est pleine, jusque dans les moindres choses. Puisse-t-il s'en faire avec plus de gravité le dépositaire? Puisse-t-il supporter et percevoir combien il est terriblement difficile, au lieu de l'apprendre à la légère? Si seulement il pouvait se montrer respectueux de sa fécondité, qui est une, fût-elle spirituelle ou physique, car la création intellectuelle provient elle aussi de la création physique, ne constitue avec cette dernière qu'un seul phénomène et n'est qu'une répétition atténuée, plus détachée et plus éternelle du plaisir de chair. Dans une seule idée d'un créateur vivent mille nuits d'amour oubliées qui la comblent de majesté et de grandeur. Et ceux qui la nuit s'unissent et s'enlacent dans le plaisir qui les berce font œuvre sérieuse et rassemblent des douceurs, de la profondeur et de la force pour le chant de quelque poète à venir qui se lèvera pour dire d'ineffables délices. Et ils appellent la venue du futur. Quand bien ils se tromperaient et s'embrasseraient aveuglément, l'avenir viendra tout de même. Un homme nouveau apparaîtra. Ne vous laissez pas abuser par les surfaces. En profondeur, tout est loi. Sans doute y a-t-il par-dessus tout un grand principe maternel, désir commun à tout, la beauté d'une vierge, d'un être qui n'a rien encore accompli, comme vous dites si joliment, est maternité qui se pressent et se prépare, s'inquiète et se languit. La beauté de la mère est maternité qui se dévoue, et chez la vieille femme on trouve une grande mémoire. La maternité est chez l'homme aussi, me semble-t-il, charnelle et spirituelle. La création masculine est elle aussi une sorte d'accouchement, et c'est un enfantement lorsqu'il crée à partir de sa plénitude la plus intime. Et peut-être les sexes sont-ils plus proches qu'on ne le pense. La grande innovation mondiale consistera sans doute en ce que l'homme et la femme, affranchis de tous les sentiments erronés et de toutes les répugnances, ne se chercheront plus comme des contraires satyres, mais comme des frères et des sœurs, comme des voisins qui s'uniront, comme des êtres humains, pour simplement, gravement et patiemment, assumer en commun cette sexualité difficile qui leur échoit. Mais tout ce qui un jour deviendra peut-être possible pour beaucoup, le solitaire peut déjà le préparer et l'élaborer de ses propres mains. C'est pourquoi, cher monsieur, il vous faut aimer votre solitude et supporter à travers des plaintes aux beaux accents la souffrance qu'elle vous cause. Car ceux qui vous sont proches se trouvent au loin, dites-vous, ce qui révèle qu'une certaine ampleur est en train de s'installer en vous. Et si ce qui vous est proche est déjà lointain, votre ampleur confine alors aux étoiles. Et elle est fort vaste. Réjouissez-vous de votre croissance, où vous ne pouvez bien sûr vous faire accompagner de personne. Évitez de nourrir ce drame toujours ouvert entre parents et enfants. Il gaspille tant de force chez les enfants et consume l'amour des parents qui agit et réchauffe même lorsqu'on ne le comprend pas. N'exigez aucun conseil d'eux et ne comptez pas sur la moindre compréhension, mais croyez à leur amour qui vous sera conservé comme un héritage. La fin de l'année approche et avec elle, la période des bilans et des désillusions. C'est de Rome que Rilke écrit désormais à son jeune lecteur. Le poète y passera 10 mois au cours desquels il entreprend la rédaction de son roman autobiographique « Les carnets de Malte » qui paraitra en 1910. C'est dans cette 6e lettre, datée du 23 décembre 1903, que l'on apprend ce qu'est devenu Franz Capus. Le jeune homme a suivi les conseils de son aîné, gagné son indépendance afin de quitter définitivement l'enfance. Car il faut bien grandir, mais à quel prix ? Mon cher monsieur Capus, il ne faut pas que vous restiez sans un mot de moi alors que Noël approche et que votre solitude au milieu des fêtes vous pèsera davantage qu'à l'ordinaire. Mais si vous remarquez qu'elle est grande, réjouissez-vous. Car que serait une solitude qui fût dépourvue de grandeur ? Il n'y a qu'une seule solitude, elle est grande. Il n'est pas facile de la supporter, mais que cela ne vous abuse point. Ce qui est nécessaire, c'est seulement ceci, la solitude, la grande solitude intérieure. Pénétrer en soi-même et ne voir personne durant des heures, voilà ce à quoi il faut être capable de parvenir. Être seul comme on était seul enfant. Pensez, cher monsieur, au monde que vous portez en vous. Et donnez à cette réflexion le nom que vous voudrez, qu'il s'agisse du souvenir de votre propre enfance ou d'une aspiration à votre propre avenir, soyez seulement attentif à ce qui s'éveille en vous et accordez-y une valeur supérieure à tout ce que vous observez autour de vous. Je sais votre profession est dure. Elle est en pleine contradiction avec vous-même. Je prévoyais votre plainte et savais qu'elle se manifesterait. Maintenant qu'elle s'est exprimée, je ne puis pas vous apaiser. Je ne puis que vous conseiller de réfléchir. Toutes les professions ne sont-elles pas pleines d'exigences, pleines d'hostilité à l'égard de l'individu, toutes imprégnées par la haine de ceux qui sont restés muets face au devoir et s'y sont pliés en maugréant? La condition au sein de laquelle il vous faut désormais vivre n'est pas plus lourdement grévée de conventions, de préjugés et d'erreurs que toutes les autres. Et s'il en est certaines qui font montre d'une plus grande liberté, il n'en est aucune qui offre par elle-même de l'ampleur et de l'espace, ni qui soit en relation étroite avec les grandes choses dont est faite la vraie vie. Seul l'individu solitaire est soumis aux lois profondes, et lorsqu'il sort dans l'aube qui pointe au regard du crépuscule, lorsqu'il sent ce qui se produit alors, il se dépouille de toute sa condition qui le quitte comme un cadavre. Ce que vous êtes dans la nécessité de vivre, cher monsieur Capus, maintenant que vous êtes officier, vous l'eussiez probablement éprouvé dans toutes les autres professions existantes. Ce sentiment d'oppression ne vous eût pas davantage été épargné. Il en est partout ainsi. Mais ce n'est pas une raison pour être angoissé ou triste. Si pensez à l'enfance, à ce qui l'accompagne, qui est simple et tranquille, vous êtes un sujet d'inquiétude et de tourment, demandez-vous alors si vous avez effectivement perdu Dieu. N'est-ce pas au contraire que vous ne l'avez jamais possédé? Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il est celui qui viendra, qui est imminent de toute éternité, le fruit ultime d'un arbre dont nous sommes les feuilles? Qu'est-ce qui vous empêche de projeter sa naissance dans les temps futurs et de vivre votre vie comme l'un des beaux jours douloureux d'une grossesse grandiose? Ne constatez-vous pas que tout ce qui arrive est toujours aussi un commencement? Fêtez Noël, cher monsieur Capus, pénétrez de ce pieux sentiment que Dieu a peut-être besoin, pour s'annoncer, précisément de cette angoisse de vivre qui est la vôtre. Ce sont peut-être justement ces jours qui pour vous représentent une transition, qui sont le moment où tout en vous travaille à sa venue. Soyez joyeux et confiants. Ici un sonnet de Franz Capus. Dans ma vie frémit sans plainte et sans soupir un mal obscur. De mes rêves le cristal pur bénit mes jours sans contrainte. Mais plus souvent le grand pourquoi croise ma route et me rend quoi. Je fuis comme devant ces eaux dont je ne mesure pas les flots. Les douleurs me submergent, troubles comme une nuit trop dure où perce une étoile ternie. Mes mains vers l'amour convergent, je veux prier à voix sûre, or déjà ma bouche est tarie. Les mois passent. Retrouvons Rilke à Rome, toujours au printemps suivant. Dans sa 7e lettre, datée du 14 mai 1904, il adresse un petit compliment à Franz Capus, mais un compliment mêlé d'ironie, auquel succède une grande leçon de vie, un éloge de la difficulté de créer et de la difficulté d'aimer. Ces lignes résonnent à la fois comme un manifeste esthétique de la part de l'écrivain et une nouvelle profession de foi dans l'avenir des relations hommes-femmes. Vous voyez, j'ai recopié votre sonnet car j'ai trouvé qu'il était beau et simple, coulé dans une forme qui lui sied avec une très discrète décence. Ce sont de vous les meilleurs vers que vous m'avez permis de lire. Je vous envoie cette copie car je sais combien il est important de redécouvrir son propre travail dans une autre écriture. Lisez ces vers comme s'ils vous étaient inconnus et vous ressentirez de la manière la plus profonde à quel point ils sont les vôtres. Vous ne devez pas vous laisser tromper. Les gens ont l'habitude, grâce aux conventions, de chercher à tout des solutions faciles en choisissant, dans la facilité, ce qui coûte le moins de peine. Or, il est clair que nous devons nous en tenir à ce qui est difficile. Nous savons peu de choses, mais que nous devions absolument nous en tenir à ce qui est difficile, c'est une certitude qui ne nous quittera pas. Il est bon d'être seul, car la solitude est difficile. Et le fait que quelque chose soit difficile doit nous être une raison supplémentaire de le faire. Aimer aussi est une bonne chose, car l'amour est difficile. Que deux êtres humains s'aiment, c'est sans doute la chose la plus difficile qui nous incombe. C'est le critère et l'épreuve ultime, la tâche en vue de laquelle toutes les autres ne sont que préparation. C'est pourquoi les jeunes débutants en toutes choses ne savent pas encore pratiquer l'amour. Il faut qu'ils apprennent. De tout leur être, de toute leur force concentrée dans leur cœur solitaire, inquiet, dont les battements résonnent, il faut qu'ils apprennent à aimer. C'est ainsi qu'aimer est pour longtemps et loin dans la vie solitude, isolement accru et approfondi pour celui qui aime. Aimer, tout d'abord, n'est rien qui puisse s'identifier au fait de se fondre, de se donner, de s'unir à une autre personne. Que serait en effet une union entre deux êtres indéfinis, inachevés, encore chaotiques? Aimer, c'est pour l'individu une extraordinaire occasion de mûrir, de se transformer au sein de soi, de devenir un monde en soi pour quelqu'un d'autre. C'est pour lui une grande et immodeste ambition, quelque chose qui le distingue et l'appelle vers le large. Dans ce sens seulement, est considéré comme la tâche de travailler sur soi, d'ausculter, de marteler nuit et jour, ai-je écrit à propos de Rodin, que l'amour peut être pratiqué par des jeunes gens auxquels il est accordé. La fusion, le don et toute forme de communauté ne sont pas pour eux qui longtemps encore, longtemps doivent épargner et accumuler. C'est le but final. C'est sans doute ce pourquoi aujourd'hui encore des vies humaines suffisent à peine. Si toutefois nous tenons bon, et si nous assumons cet amour comme une charge et un apprentissage, au lieu de nous perdre dans tout ce qui est frivole et facile, derrière lesquels les hommes se dissimulent la gravité la plus profonde de leur existence, ceux qui viendront longtemps après nous ressentiront peut-être un soulagement et quelques menus progrès. Un jour, que des signes fiables indiquent déjà maintenant et laissent deviner, un jour, la jeune fille existera. Et la femme, dont le nom ne signifiera plus ce qui s'oppose au masculin, mais quelque chose qui vaut par soi, quelque chose qui n'induit pas à penser la moindre complémentarité ni aucune limite, mais seulement une vie et une existence, l'être humain féminin. Ce progrès va modifier l'expérience de l'amour qui actuellement est pleine d'erreurs, la transformera fondamentalement, la convertira en une relation pensée comme un rapport d'être humain à être humain, et non plus d'homme à femme. Et cet amour plus humain, qui procédera avec infiniment plus d'égards et de douceur, ressemblera à celui que nous préparons péniblement, non sans lutte, à cet amour qui consiste en ce que deux solitudes se protègent, se bornent et se rendent hommage.
Tous ces cris de la rue, ces mecs, ces magasins où je te vois dans les rayons comme une offense, aux bijoux de trois sous, aux lingeries de rien, ces ombres dans les yeux des femmes quand tu passes, tous ces bruits, tous ces chants et ces parfums passants quand tu t'y mets dedans, quand je t'y exile pour t'aimer de plus loin comme ça en passant, tous ces trucs un peu dingues, tout cela c'est ton style, c'est ton cul, c'est ton cul. C'est ton cul, ton style, c'est ma loi. Quand tu t'y plies, salope, c'est mon sang à ta plaie. C'est ton feu à mes clopes. C'est l'amour à genoux et qui n'en finit plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Tous ces ports de la nuit, ce monde qu'on voudrait bien, et puis qu'on ne veut plus, dès que tu me fais signe au coin d'une réplique, enfoncé dans ton bien par le sang de ma grappe et le vin de ta vigne, tout cela se mêlant en mémoire de nous, dans ce monde perdu de l'an 80 000, quand nous n'y serons plus et quand nous renaîtrons, tous ces trucs un peu fous, tout cela c'est ton style, c'est ton. C'est ton cul, ton style, c'est ton droit. Quand j'ai droit à ton style, c'est ce jeu de l'enfer, de face et puis de pile. C'est l'amour qui se tait quand tu ne chantes plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. À t'en vouloir connaître, on ne connaît plus rien. Ce qui me plaît chez toi, c'est ce que j'imagine à la pointe d'un geste, au secours de ma main, à ta bouche inventée, au-delà de l'indigne, dans ces rues de la nuit, avec mes yeux masqués. Quand tu ne reconnais de moi qu'un certain style, quand je fais de moi-même un autre imaginé, tous ces trucs imprudents, tout cela c'est ton style. Ton style, c'est ton. Ton style, c'est ta loi. Quand je m'y plie,
salope, c'est ta plaie, c'est mon sang, c'est ma cendre à tes clopes, quand la nuit a jeté ses feux, et qu'elle meurt, ton style, c'est ton cœur, c'est ton cœur, c'est ton cœur. C'est ton cœur.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
L'été suivant, une profonde mélancolie envahit Franz Kapus. De Suède, où il séjourne chez des amis, Rilke tente une nouvelle fois de soulager les peines de son jeune interlocuteur qui semble avoir vécu son premier grand chagrin d'amour. Voici ces pages sublimes d'inspiration métaphysique où le poète interprète le sentiment de tristesse dans le sens d'une ouverture sur l'avenir, une porte d'entrée du destin. Il esquisse une nouvelle cosmogonie avec pour centre l'homme solitaire. Nous sommes seuls, en effet, face à cette étrangeté qui est entrée en nous. Car pour un temps, tout ce qui nous est familier nous est ravi. Nous sommes en effet au cœur d'une transition où nous ne savons pas nous fixer. Nous sommes incapables de dire qui est entré. Nous ne le saurons sans doute jamais. Et pourtant, bien des signes témoignent du fait que c'est ainsi que l'avenir pénètre en nous, pour s'y modifier longtemps avant qu'il n'arrive lui-même. Voilà pourquoi il est si important d'être solitaire et attentif lorsqu'on est triste. L'instant apparemment immobile où, semble-t-il, rien ne se passe, cet instant où l'avenir pénètre en nous est en effet beaucoup plus proche de la vie que cet autre moment arbitraire où l'avenir nous arrive de l'extérieur. Plus nous sommes silencieux, patients et disponibles lorsque nous sommes tristes, et plus ce qui est nouveau pénétrera profondément et sûrement en nous, mieux nous le ferons nôtre. Il sera d'autant plus notre destin propre, et plus tard, lorsqu'il se produira, nous nous sentirons profondément intimes et proches. Et c'est nécessaire, il est nécessaire. Et c'est vers cela que doit tendre notre évolution, que nous rencontrions ce qui, depuis longtemps, nous appartient. Il a déjà fallu repenser tant de conceptions du mouvement qu'on saura peu à peu admettre que ce que nous appelons destin provient des hommes et ne vient pas de l'extérieur. De même qu'on s'est longtemps abusé à propos du mouvement du soleil, on continue encore de se tromper sur le mouvement de ce qui est à venir. L'avenir est fixe, cher monsieur, mais c'est nous qui nous déplaçons dans l'espace infini. Comment cela ne nous serait-il pas pénible? Nous sommes solitaires, c'est tout. Il faut prendre cela pour point de départ. Il arrivera certainement que nous soyons pris de vertige, comme celui qui, presque sans préparation ni transition, est transporté d'une pièce familière au sommet d'une haute montagne. Il devrait éprouver un sentiment d'insécurité inouï, le sentiment d'être livré à l'indicible. Il s'imaginerait tomber ou se croirait propulsé dans l'espace, dispersé en mille morceaux. Mais il est nécessaire que nous fassions aussi cette expérience-là. Il nous faut accepter notre existence aussi loin qu'elle peut aller. Tout et même l'inouï doit y être possible. C'est au fond le seul courage qu'on exige de nous. Être courageux face à ce que nous pouvons rencontrer de plus insolite, de plus merveilleux, de plus inexplicable. Nous n'avons aucune raison d'éprouver de la méfiance à l'égard de notre monde, car il n'est pas tourné contre nous. S'il recèle des peurs, ce sont nos peurs. Des abîmes, ils sont nôtres. Présente-t-il des dangers, nous devons tenter de les aimer. Comment pourrions-nous oublier ces vieux mythes qu'on trouve à l'origine de tous les peuples, les mythes où les dragons se transforment en princesses à l'instant crucial? Peut-être tous les dragons de notre vie sont-ils des princesses qui n'attendent que le moment de nous voir un jour beau et courageux. Peut-être tout ce qui est effrayant est-il au fond ce qui est désemparé et qui requiert notre aide. Vous ne pouvez donc, cher monsieur, vous effrayer qu'une tristesse surgit devant vous, pas plus lorsqu'une inquiétude traverse tous vos agissements et passe sur vos mains comme une alternance de lumière et de nuages. Vous devez alors penser que quelque chose se produit en vous, que la vie ne vous a pas oublié, qu'elle vous tient en main et ne vous laissera pas tomber. Vous rappelez-vous à quel point cette vie en vous a voulu sortir de l'enfance, aspirant aux grandes choses. Je constate aujourd'hui qu'à partir de grandes choses, elle continue d'aspirer aux plus grandes. C'est pourquoi elle ne cessera pas d'être difficile, mais c'est aussi pourquoi elle ne cessera de croître. Et si j'ai encore une chose à vous dire, j'ajouterai ceci. Ne croyez pas que celui qui cherche à vous réconforter vit sans difficulté parmi les mots simples et tranquilles qui parfois vous font du bien. Sa vie est pleine de peine et de tristesse. Il reste très en deçà de la vôtre. S'il en était autrement, il n'eût jamais su trouver ces mots. Votre Rainer Maria Rilke. Quatre années ont passé, nous voici à la 10e et dernière lettre. Entre-temps, Rilke s'est installé à Paris où il est devenu le secrétaire de Rodin. Sa biographie du grand sculpteur est parue en 1907. Sa femme Clara est partie vivre en Allemagne. Dans cette lettre, il y en a d'autres écrites ultérieurement mais que l'éditeur n'a pas souhaité rendre publique, le poète revient sur l'un de ses thèmes les plus chers, l'éloge de la solitude. Le lecteur apprend enfin ce qu'est devenu Franz Capus. Officier, il est nommé dans un fort de garnison, isolé au pied des montagnes. Sachez que Franz Capus deviendra correspondant de guerre en 1418 et participera après 1945 au renouveau politique de l'Allemagne. Il n'abandonne pas totalement la littérature puisqu'il sera également journaliste, auteur de nouvelles et éditeur. Il sera précisément ce que Rilke ne lui souhaite pas en conclusion de cette ultime missive. Paris, le lendemain de Noël 1908. J'ai souvent pensé à vous durant ces jours de fête et j'imaginais à quel point vous étiez obligé d'être silencieux dans votre fort solitaire parmi les montagnes vides où se ruent ces grands vents du sud comme s'ils voulaient les engloutir par pans entiers. Il faut qu'il soit immense le silence qui offre le cadre où ont lieu de tels vacarmes et de tels mouvements de troupes. Et si l'on songe que à tout cela vient s'ajouter et consonner la présence de la mer lointaine, peut-être comme la sonorité la plus profonde au sein de cette harmonie préhistorique, on peut seulement souhaiter que vous laissiez patiemment et en toute confiance cette grandiose solitude accomplir en vous son travail. Solitude qui ne pourra plus jamais être effacée de votre existence et qui, dans tout ce que vous aurez à vivre et à réaliser, agira continuellement. Un peu comme en nous le sang de nos ancêtres court sans cesse et se fond avec le nôtre pour produire un composé unique qui ne se répétera jamais, ce que nous sommes à chaque tournant de notre vie. Oui, je me réjouis que cette existence stable et définie soit vôtre, avec ce grade, cet uniforme, ce service, tous ces aspects tangibles et délimités. Et que nous soyons dans des situations qui exercent en nous leur effet, qui de temps en temps nous placent devant de grandes choses naturelles, c'est tout ce dont nous avons besoin. L'art, lui aussi, n'est qu'une manière de vivre. Et quelle que soit la vie qu'on mène, il est possible sans doute de s'y préparer. Dans tout ce qui est réel, on en est plus proche et plus familier qu'en exerçant une de ces professions semi-artistiques et irréelles qui, dans la mesure où elles reflètent une proximité avec l'art et en fait nie et attaque l'existence de tout art, ce que fait par exemple toute la profession journalistique, presque toute la critique et les trois quarts de ce qu'on appelle littérature et qui revendique ce nom. Je me réjouis en un mot que vous ayez esquivé le danger de sombrer là-dedans et que vous soyez solitaire et ferme quelque part au sein d'une rude réalité. Puisse l'année qui vient vous y maintenir et vous y conforter. Toujours vôtre, Rainer Maria Rilke.
Rilke est un poète qui a beaucoup compté pour moi, surtout à la période adolescente.
Laurent Terzieff.
Quand on a du mal à s'accepter, à accepter le monde. Parce que justement, j'ai retrouvé dans lui une espèce de démarche qui était un petit peu la mienne à l'époque, c'est à savoir accepter l'image d'un monde qui vous paraissait hostile en l'intériorisant et en même temps extérioriser un monde intérieur qui nous oppresse un peu. Hein. Et j'ai reconnu cette démarche dans Rilke. Et peut-être cherchait-il dans la poésie ce que saint Benoît lui cherchait dans la prière, être présent à la psalmodie de telle façon que notre homme intérieur s'accorde avec notre voix.
Quiconque pleure à présent quelque part dans le monde, sans raison, pleure dans le monde, pleure sur moi. Quiconque rit à présent quelque part dans la nuit, sans raison, rit dans la nuit. Rit de moi. Quiconque marche à présent quelque part dans le monde, sans raison, marche dans le monde. Viens vers moi. Quiconque meurt à présent quelque part dans le monde, sans raison, meurt dans le monde. Me regarde.
En épilogue, évoquons l'artiste qui a marqué cette période de la vie de Rilke. Ces années 1903-1908 de la correspondance avec Franz Kapus sont aussi celles d'une rencontre décisive pour Rilke avec le sculpteur Auguste Rodin. Leurs relations sont tumultueuses. Après une rupture en 1907, l'année 1908 marque leur réconciliation. C'est en Rodin que Rilke reconnaît les qualités du grand poète. Voici l'éloge qu'il fait de l'artiste dans un magnifique hymne à l'amour et à la création. Extrait de la traduction de Rémi Colombard dans la collection de la Pléiade. Ce travailleur grave et recueilli, qui ne voulait en fait d'accomplissement que celui que pouvait atteindre son instrument toujours plus mûr, traversa sur cette voie tous les drames de la vie. Voici que s'ouvrit devant lui la profondeur des nuits d'amour, ce grand espace obscur rempli de volupté et de chagrin, où, comme dans un monde encore héroïque, il n'y avait point de vêtements pour éteindre les visages et où les corps étaient en valeur. Les sens chauffés à blanc, il arriva dans la grande confusion de ce corps à corps et ce qu'il vit, ce fut la vie. Elle était là mille fois par minute. Elle était dans le désir et dans la peine, dans la folie et dans l'angoisse, la perte et la conquête. Il n'y avait là nul mensonge ni refus, et les gestes de prendre et de donner étaient là, authentiques et grands. D'instinct qu'elle était, la vie était devenue une aspiration, d'une convoitise entre hommes et femmes, une attirance entre êtres humains. L'être qui, dans la nuit, se lève et va sans bruit vers un autre, est comme un chercheur de trésors qui veut déterrer, à la croisée des chemins du sexe, le grand bonheur qui est si nécessaire. Et dans tous les vices, dans toutes les voluptés contre nature, dans toutes ces tentatives désespérées et perdues, il y a quelque chose de ce désir qui fait les grands poètes. L'humanité souffre là d'une faim qui la dépasse et la transporte au-delà d'elle-même. Des mains se tendent vers l'éternité. Des yeux s'ouvrent là qui regardent la mort et ne la craignent pas. Il y a là les tempêtes du désir et les grands calmes de l'attente. Là aussi les rêves qui deviennent actes et les actes qui se perdent en rêves. Tout cela se trouve dans l'œuvre de Rodin.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Pierrick Charles. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.